Eh bien, table ovale sans ellipse, depuis Villefranche-sur-Rouergue, avec autour de Claude Devezin, autour de la table ovale, Angelo Andreotti, là lui je sais au moins pourquoi il est en premier sur la liste, Angelo Andreotti, pour le Parti communiste français, Jean-Louis Calmette pour Europe Écologie Les Verts, Laurent Tranier pour l'Union pour un mouvement populaire, et en principe Bernard Mor pour l'Union des démocrates et indépendants. David me fait signe que oui, c'est confirmé, nous serons bien Bernard Mor. Et notre sujet d'aujourd'hui, eh bien, c'est le striptease. Non, pardon, le patrimoine des élus, ministres et des responsables. Alors, on va déjà voir. Ça me paraissait une outre le fait qu'on s'amusera un petit peu à voir ce qu'on nous a donné comme patrimoine au niveau du gouvernement en fin d'émission, mais ça me paraissait une accroche possible. Déjà localement, parce qu'après tout, toutes les collectivités peuvent être confrontées à des problèmes pour lesquels il faut installer des garde-fous, se prémunir. Et déjà, je voudrais qu'on voit quels sont les problèmes qu'il peut y avoir dans des collectivités locales, des communes, des départements. Qu'est-ce qu'un élu peut faire de malhonnête et qui tendrait à l'enrichir et à porter préjudice à la collectivité? Monsieur Calmette, après tout, vous êtes adjoint, vous.
Oui, oui. Alors, je pense que dans les collectivités, les petites villes de l'Aveyron ou les petites communes de l'Aveyron, il y a quand même pas, bien qu'il y a quand même pas des possibilités de retirer de l'argent, je m'entends impunément et malhonnêtement. Bien qu'on ait vu dernièrement un maire qui a démissionné parce qu'il avait volé un peu d'essence dans un local intercommunal. Mais je pense que sur ce sujet-là, il n'y a pas de problème chez nous.
Je ne demande pas de cafeter, mais voilà. Quels sont les risques?
Alors, des risques, il y en a partout, bien sûr. On a, par exemple, des groupes d'intérêts qui sont importants et qui viennent régulièrement voir les élus, parfois les inviter à manger, parfois les inviter à un spectacle, chose que moi, personnellement, j'évite totalement. Je veux parler des groupes privés de l'énergie, des groupes privés de l'eau, des groupes privés du BTP. Quand il y a des moments de délégation de services publics, par exemple, nous sommes très sollicités et il faut y faire très attention. Par exemple, lorsque nous faisons un bulletin municipal, parfois on demande de la publicité pour insérer dans le bulletin municipal. On sait très bien que d'une manière ou d'une autre, cette publicité, nous la payerons, quoi, d'une manière ou d'une autre, soit dans le prochain travail que nous demanderons à ces entreprises que nous sollicitons. Les collectivités le payeront de toute façon, mais globalement, je pense qu'il y a les élus locaux, communaux et intercommunaux sont très studieux et font très attention de toute façon. Hein. Et il y a pas, enfin, je ne connais pas beaucoup.
Encore une fois, je demandais pas qu'on, je ne doute pas que les élus aveyronnais soient tous exemplaires. Mais ma question, c'est à quelles tentations sont-ils exposés, Monsieur Tranier?
Au groupe de pression.
Alors pour ce qui est de la mairie de Villefranche, la gestion de l'eau est un régime municipal, public, donc il n'y a pas d'intervenant privé, et il n'y a pas de publicité dans le magazine municipal. Voilà, donc sur ces deux points qu'évoquait M. Calmette, nous sommes à l'abri. L'action des collectivités est encadrée par un certain nombre de règles, un nombre élevé de règles, qui ont notamment pour objectif d'assurer et de garantir disons l'honnêteté, la sincérité de tous les actes commis par les personnes publiques, leur personnel et les élus. Par exemple, au moment de faire des appels d'offres, vous savez, les collectivités, quand elles ont des projets de travaux importants, par exemple, mais ça vaut dans tous les domaines, se font des appels d'offres, c'est-à-dire qu'elles demandent à des entreprises de proposer une solution à leurs problèmes et il y a un prix. Voilà. Alors ça, c'est très encadré par un code des marchés publics, par des règles également européennes qui font que il est quand même très difficile de pas à l'arrivée avoir une sincérité totale dans le choix du prestataire qui va construire tel ou tel établissement public. Voilà. Donc il y a des commissions d'appel d'offres, il y a un anonymat dans la mise en concurrence des offres, il y a une analyse technique, il y a des critères qui sont précis, qui sont transparents, qui sont techniques, hein, c'est complexe, c'est une des complexités de l'achat public. Ça soumet d'ailleurs les entreprises à toute une série de conditions pour pouvoir espérer fournir des collectivités qui sont difficiles à remplir. Hein. C'est compliqué pour une petite entreprise de répondre à un appel d'offres d'une collectivité parce qu'on lui demande beaucoup de choses, plus que dans la relation courante entre deux entreprises privées en général. Mais bon, voilà, le résultat, c'est que à force de complexité et de règles, on arrive, je crois, assez largement, et oui, très largement, et il y a des contre-exemples, hein, bien sûr, mais très largement à une honnêteté, en tout cas, dans ce domaine-là.
Alors, monsieur Andréotti, si je comprends bien vos deux collègues, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible.
Non, il ne s'agit quand même pas de sombrer dans le noir absolu, en mettant en cause par soupçon toute la classe politique, comme je le crains. On s'en régale dans les médias. En réalité, la grande majorité, il faut le dire, des élus est honnête, et il s'agit quand même de le reconnaître. Sinon, on n'est pas nous-mêmes sérieux. Donc, ce que je crains, c'est que tout cela fasse un pet dans l'eau, c'est-à-dire qu'on aura fait un grand coup, et on aura pris quand même des mesures, parce qu'il y en a. Ont été prises. Alors, pour ce qui concerne votre question précise sur les élus locaux, les collectivités, le développement qui serait nécessaire est un peu long. Parce que, effectivement, les risques et les protections, il faut les voir, il y a des risques sérieux, parce que le lobbying est une industrie organisée auprès des élus, et ce que je crains, c'est que cela s'aggrave avec la future loi qui va créer de gigantesques pôles de supercommunalité qui va éloigner encore plus les citoyens de contrôle, justement, du pouvoir de contrôler ces élus. Ce qu'il faudrait, c'est une loi révocatoire, c'est des instances nouvelles, et c'est pourquoi nous sommes pour une 6e République, les communistes et le Front de Gauche, parce que c'est un problème plus général que celui qu'on pose, qui viserait les élus et la classe politique, parce qu'il y a le monde de la finance, le pouvoir c'est le pouvoir de l'argent, tout le monde le sait, il s'agit quand même pas d'être hypocrite, et il se manifeste. Alors j'ai quelques exemples. Le lobbying, c'est un système très organisé, et voilà par exemple des lobbyistes notoirement actifs, parmi les personnalités politiques, enseigne l'art de s'immiscer dans les couloirs des instances de la République pour, évidemment, faire pression sur les décisions. Il y a là du personnel politique de droite et socialiste, et, par exemple, cet institut européen qualifié d'institut supérieur européen du lobbying, l'ICEL, il y a 10 ans d'âge, il est légal, il prestataire de formation, monsieur Bruno Gosselin. La pratique des couloirs, on y enseigne de la commission et des couloirs de toutes les collectivités. Franck Aluzio, président des jeunes UMP, ancien conseiller de Pierre Lelouch, secrétaire d'État UMP de Monsieur Sarkozy, Monsieur Jacques Breillat, adjoint au maire en Gironde, Mascarin Guillaume, actuel conseiller du cabinet du ministère de la Défense, Élodie Massé, ben, ce sont des gens qui enseignent cet art en tant qu'élu même. Monsieur Nicolas Baïs, député PS, qui en plus dirige l'école supérieure des élus sur l'art d'utiliser le lobbying auprès des élus institutionnels. Alors mes sources, ce sont des ouvrages créés par des économistes. Par exemple, ouais,
Ce sont des noms de professeurs qui enseignent légalement quelque chose de légal.
Oui, des élus. Qui enseignent l'art du lobbying auprès des élus. Donc, ces liens entre l'argent et les élus, il faut les rompre. Et les dispositions actuelles ne le permettent pas, pour bien des raisons, il faut le regarder. Donc il y a un lien, c'est de la consanguinité, c'est un système légal, il faut le dire, mais comme je le disais tout à l'heure au micro, ne confondons pas légalité et moralité. Donc pour l'instant, je terminerai, Dexia Banque Toxique montre des exemples de rencontres de décideurs où des élus touchent des jetons de présence, non pas pour décider dans les votes, puisqu'ils n'y ont pas droit statutairement, mais ils sont conseils et ils sont auditionnés. Et parmi eux, il y a, par exemple, des élus très célèbres, comme par exemple M. Rebsamen, et d'autres. Et on sait que c'était dans Dexia, la banque toxique qui a ruiné bien des collectivités, et dont il faut dire aussi, se protéger, c'est aussi créer un pôle financier public et transparent, ce que personne n'évoque, sinon on n'y arrivera jamais à moraliser la politique et à protéger les élus de ce qui est, parce que c'est humain, l'attraction, le pouvoir de l'argent. Et donc, enfin, pour terminer, parce que je ne veux pas monopoliser trop la parole, je recommande cette lecture, hein, Dexia, Banque Toxique, aux éditions La Découverte. Je fais une publicité, là, parce que c'est de moralité qu'il s'agit. Et alors, je me tais, parce que effectivement, je crois, pour répondre et finir sur ma brève parenthèse, en réalité, on a besoin d'une réflexion plus globale, et d'aller plus loin pour rompre ces liens entre l'argent et la politique, même localement, parce que ce n'est pas si différent quand il s'agit de grandes collectivités comme nos villes principales.
Il y a aussi les départements, les commissions d'urbanisme.
Voilà. Et en fait, bon, excusez-moi, là, il existe une direction des organismes de contrôle qui sont sous tutelle du ministère. Il faut savoir, on n'est pas complètement sans moyens. Donc il faut voir comment on réactive tous ces leviers de la République. Voilà.
Monsieur Mort,
ces moyens.
Pour l'Union des démocrates et indépendants, quelles sont les tentations auxquelles sont exposés nos édiles puisque ils y résistent tous. On vient de vos collègues nous ont dit qu'ils y résistaient tous, du moins dans nos régions. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont exposés à quelles tentations, selon vous ?
C'est vrai que quand on a un contact direct avec la population, les tentations sont peut-être moindres. Il y a quand même un contrôle sociologique qui se fait. En ce qui concerne les nouveaux projets de loi, le contrôle à la déclaration ne me font pas de problème, encore que le contrôle il soit peut-être...
On parlera des moyens. Pour l'instant, déjà, je voulais savoir quels étaient les risques que couraient les collectivités.
En fait, il y a la confusion des genres ou les intérêts mêlés, le conflit d'intérêts. Mais c'est assez complexe parce qu'en fait, les meilleurs dans une branche, je vois surtout en ce qui concerne le médicament, c'est quand même ceux qui ont été recrutés par des firmes privées. Et ils peuvent, il est difficile de trouver de bons experts complètement indépendants. On est toujours obligé d'accepter un compromis entre ce qu'il faudrait avoir en théorie et puis ce qu'on peut trouver dans la pratique. Je l'ai vu sur un domaine que je connais bien, c'est-à-dire le médicament, mais je pense qu'en ce qui concerne les travaux locaux, les appels d'offres, les choses comme ça, les choses sont un petit peu les mêmes. C'est difficile quand même de... Il faut être vigilant et il faut voir aussi, il faut distinguer les péchés véniels, comme on disait autrefois. Il y a une ministre qui s'est fait renvoyer en Norvège, je crois, pour avoir payé des couches culottes à sa gamine sur sa carte ministérielle. Bon, il faut peut-être naviguer entre cet excès-là. Et Berlusconi qui se met dans un gouvernement où il essaie d'avoir l'absolution pour des...
On parlera tout à l'heure d'ailleurs de l'absolution, parce que c'est aussi une question. Enfin, je note que dans le département, dans la région, apparemment, tous les supermarchés qui s'installent, ça s'est passé strictement conformément à la loi. Les concessions de services publics, pareil, il n'y a vraiment aucune équipe. Tant mieux, hein, réjouissons-nous, Monsieur Calmette.
Quand on regarde un peu la confiance des Français dans les acteurs politiques, une enquête qui est sortie ce mois-ci, on voit que quand même le maire, on a encore confiance au maire et aux élus locaux à 75%, alors que les ministres ont la confiance qu'en 34%. Il y a quand même une marge, quoi. L'élu local qui est proche de la population, qui rencontre les habitants, qui est en contact permanent, je pense qu'on lui fait encore confiance. On y fait un peu moins confiance s'il cumule, Et le problème du cumul des mandats, c'est vraiment quelque chose chez nous qui est catastrophique au point de vue clientélisme, au point de vue favoritisme, mais c'est plus vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des associations, vis-à-vis peut-être d'entreprises, voilà. Mais le problème du cumul, je crois que c'est le problème le plus grave qu'il va falloir résoudre actuellement. Et il y a un problème qu'il faudra quand même qu'on en parle, et j'en dirai peut-être deux mots tout à l'heure, c'est le problème de l'enrichissement lorsqu'on fait de la politique. Tout le monde crie qu'on ne peut pas s'enrichir en faisant de la politique. Je suis désolé, on peut s'enrichir en faisant de la politique. Si vous voulez que je vous dise, par exemple, comment gagne un député, je pense que beaucoup de monde le sait. Un député a un brut mensuel de 7 100 euros, ça lui laisse à la fin du mois 5 140 euros, ou un sénateur touche 200 euros de plus, auquel il faut rajouter quand même ce qu'on appelle l'indemnité.
C'est une fortune quand même. Hein.
Oui, l'indemnité représentative de frais de mandat qui
très,
est
très loin.
De 5 770 euros, dont ils n'ont pas besoin de justifier l'utilisation. Donc déjà,
c'est pour leurs œuvres.
Voilà, pour leurs œuvres, auquel il faut rajouter 9 138 euros pour le personnel, mais ça, je pense qu'ils l'utilisent.
Qui peuvent également éventuellement puiser dans leur
voilà.
conjoint.
Vous, voilà, bien sûr, vous avez un régime de retraite qui est très avantageux,
carte et qui gratuite, s'ajoute à celle des hauts fonctionnaires quand ils sont députés.
Une carte gratuite SNCF, RATP, 80 voyages en avion de leur circonscription à Paris et 12 voyages
vous
en avion.
Vous ne voudriez pas qu'ils viennent à vélo quand même, monsieur Calmette.
Je suis tout à fait d'accord. Mais ça leur fait quand même à la fin du mois chacun un petit revenu qu'ils peuvent garder s'ils sont un peu économes, même peut-être pas économes, de 10 000 euros par mois. Ça fait quand même l'année à 120 000 euros, ça fait le mandat à 600 000 euros. Et il y en a qui se contentent de faire...
Monsieur Andréatti va nous expliquer la rétrocession des élus communistes.
Plusieurs mandats. Si vous rajoutez que les trois quarts des élus députés ont un autre poste, sont président de conseil général, sont conseiller régional et tout ça, ça se cumule tout ça. Mais
on se souviendra de tout ce que vous venez de nous dire, monsieur Calmette, en fin d'émission. Monsieur Tranier.
Oui, moi je voudrais rappeler le contexte et les raisons pour lesquelles finalement nous sommes ici en train de débattre de ce sujet. Tout est parti de l'affaire Cahuzac, donc le ministre du budget qui fait de la fraude fiscale.
Ne me regardez pas dans les yeux s'il vous plaît.
Je ne vous demanderai...
Auquel vous pouvez rajouter l'affaire Guéant à partir d'aujourd'hui.
Je vous demanderai que plus tard votre déclaration de patrimoine...
Parler, mais je voudrais juste qu'il nous permette une parenthèse.
Votre déclaration de patrimoine tout à l'heure, monsieur. De patrimoine. Ne vous inquiétez pas.
On va laisser la parole à monsieur Tranier. Il y avait déjà un débat en 2012 sur ces questions et il n'a pas été très, très médiatisé. Mais les mêmes questions avaient été abordées à l'Assemblée en 2012 sur un certain nombre de modalités de contrôle.
Bon, je vais ralentir. Je continue.
Donc c'est pas tout à fait nouveau quand même.
Premièrement, l'affaire Cahuzac, avec cette ironie suprême qui voit le ministre du budget faire de la fraude fiscale. Ok. Partant de là, nous avons un président de la République, je dirais, complètement discrédité dans chacune de ses actions. Qui invente en trois mouvements un projet de loi sur la transparence dans la vie publique. Pourquoi pas? Sauf que la ficelle est quand même est grosse. Ce n'est qu'une diversion pour éviter de parler de ces échecs à tous les niveaux, sur le front de la dette, sur le front fiscal, sur le front du chômage. Et donc, ça nous occupe un certain temps. Mais cela dit, c'est une question importante.
C'est une question importante. C'est une question que nous apprêtions et que je continue à m'apprêter à détailler parce qu'il y a plusieurs aspects.
Voilà, simplement, je crois que le contexte devait être reprécisé.
Alors, une des autres questions, c'est parce qu'on a vu qu'il y a des risques. Bon, Dieu merci, notre région semble en être préservée, enfin, du moins être préservée. De voir les gens succomber. Cela dit, il n'y a pas que les élus. On a sous-entendu que ceux qui étaient exposés à la tentation étaient les élus. Mais il y a quand même également en région des fonctionnaires importants qui peuvent aussi être exposés à la tentation. On a plus maintenant de fonctionnaires d'État pratiquement, mais enfin on a des fonctionnaires territoriaux et qui participent, qui préparent les délibérations, etc. Est-ce que là on est tout à fait à l'abri de ce point de vue-là aussi?
Non plus, parce que comment sont-ils désignés? Si je prends l'exemple de Madame Lagarde lorsqu'elle était ministre, qui est allée s'entourer d'hommes véreux comme ceux qui ont travaillé dans ces banques toxiques de Deuxia, qui s'entouraient d'hommes qui étaient mêlés à cette corruption. des élus par le biais des prêts appelés structurés, et s'entourer d'hommes comme celui-là, et c'est dans le livre que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, effectivement, il n'y a pas que les élus qui sont menacés de corruption par toutes sortes de pressions et de lobbying. Dont par exemple, M. Pierre Richard, qui a été nommé au gouvernement sous la droite.
Pierre Richard, ancien ministre de la Défense.
C'est un financier qui a créé Dexia.
C'est pas l'acteur.
Bien rémunéré. Non. Bon, alors.
Non, mais je tenais à le préciser.
Donc, on voit qu'il faut rendre plus transparent et démocratique les processus même de désignation, parce que notre République, elle est monarchique. Vous avez quelques décideurs, et puis tout se fait après dans l'opacité totale pour la désignation de ces chargés de mission, conseillers, qui viennent des milieux financiers. Et ce sont ces gens-là qui font le travail. Et c'est ce que nous, au Front de Gauche et au Parti communiste, nous voulons changer avec la Nouvelle République. On appelle le 5 mai à manifester justement pour cette Nouvelle République, parce qu'on a besoin d'une refonte générale des institutions. Cette République, elle n'en peut plus. Elle est de plus en plus centralisée. Et on fait pareil pour les collectivités. Donc il faut, alors je vais conclure, donc effectivement, non, pour moi il n'est pas question de terminer cette affaire avec simplement une individualisation, c'est des gens malhonnêtes, le reste va très bien, non, je crois qu'on a besoin d'autre chose et de changements plus structurels. Je rappellerai par exemple que une des toutes premières décisions qu'avait pris la droite en 2002, après Jospin, c'était d'abroger la loi U de transparence sur l'utilisation des fonds publics. La loi que les députés communistes avaient réussi à faire voter, dont les décrets ne sont jamais parus, mais elle a été abrogée aussitôt. Ils ne s'y trompent pas, eux. Cette loi permettait justement de créer des instances nouvelles, départementales, sous l'autorité des préfets, pour rendre des comptes très exacts de ce qu'est devenu la dotation pour les collectivités, de ce qu'on a fait pour les entreprises privées, parce que là, on reste toujours élus et publics. Mais le gros problème, quand vous avez 4% des entreprises en France qui ont sous leur contrôle, directement et par leur filiale, 65% des salariés, ça pose un problème plus général que de voir qu'en plus, bon, je ne vais pas plus loin, mais peut-être qu'on pourra, les cadeaux pleuvent. Est-ce que c'est moral, c'est cadeau? Et encore une fois, là, tout récemment, le président Hollande, devant un parterre de 300 patrons, vient d'annoncer qu'on allait encore abaisser le taux de plus-value sur les cessions.
Vous souhaitez vraiment que les entrepreneurs aillent camper leur... Écoutez,
on n'a pas forcément besoin de gens comme Mittal qui viennent en plus ramasser des crédits d'impôt. Non, on n'a pas besoin de ces gens-là, effectivement. Il y a des compétences. Alors, je termine.
Il y a certainement...
Ils ont fait leur preuve de leur incompétence. Plus on fait des cadeaux d'argent public...
L'incompétence, je l'ai vu souvent dans les régimes que vous avez prônés.
Non, vos régimes, vous les gardez, parce que moi, j'en ai un, et j'ai maigri de 13 kilos. Voyez, donc, parlons pas de régime, parce que ça, c'est revenir 60 ans en arrière. Il y a longtemps qu'on a tourné la page. Pour nous, d'ailleurs, on a les mêmes propres. Pour ce qui est de nos finances, vous parliez de rétrocession, nos élus versent la moitié de leurs indemnités à l'organisation
politique. Oui, je suis bien informé, voilà. Monsieur
Tradier. Donc, il ne reste pas des fortunes.
Monsieur Tradier, sur l'organisation de la République.
Je crois que là, le président de la République, avec ce projet de loi sur la transparence, est en train d'atteindre un de ses objectifs, qui est de semer la confusion à tous les niveaux. On l'a dit tout à l'heure, les élus, dans leur grande majorité, sont des gens honnêtes. De même que les fonctionnaires, que ce soit ceux des administrations centrales, déconcentrées ou la police. Il y a partout des ripoux ou des gens malhonnêtes. Le travers de cette discussion, c'est qu'on sème la suspicion on jette la suspicion sur tout le monde.
Bon.
D'autant plus quand on mélange un peu tout, excusez-moi, monsieur Andréotti, du lobbying à...
C'est pas mélangé,
vous avez parlé de la corruption de Dexia.
La politique fonctionne comme ça. On désigne ces gens-là auprès des ministres. Il faut pas quand même essayer de biaiser.
Non, je biaise pas, mais je vais répondre.
Ils décident auprès des ministres.
On vit dans un monde complexe, il faut aller un peu plus loin.
C'est pas de la rigolade.
Laissons monsieur Tranier répondre.
Ah ouais, Vous avez parlé de Dexia et de sa corruption auprès des élus. Bon, c'est pas de la corruption. Dexia a vendu des prêts toxiques à des collectivités à leur insu. Quelque part, Dexia a escroqué les collectivités qui ont été victimes de ces produits. Donc, on n'est pas sur le même plan, sur le plan de la corruption. Vous avez parlé de lobbying. Le lobbying, c'est une réalité du monde contemporain.
De ces collectivités. Puisque la banque est dissoute.
La banque est dissoute, et bien sûr, mais c'est pas de la corruption. Il n'y a pas des élus malhonnêtes qui se sont enrichis. Je suis d'accord pour qu'on ne mélange pas tout et qu'on essaie d'être clair sur un sujet qui est un peu compliqué.
Dexia, c'était une banque semi-publique. Donc, en fait, si vous voulez, le système semi-public, il a ses limites.
Il travaillait pas comme le public, transparent. Il travaillait comme les organismes financiers les plus.
Ils étaient plus contrôlés que les autres, et c'est eux qui sont tombés dans la mare.
C'était semi-public, monsieur Maur nous dit que c'était trop public, et monsieur Andréotti nous dit que c'était trop privé. Bon, non, essayons
au départ,
de.
C'était un crédit local de France.
Bon,
ça a complètement changé.
Vous avez lancé le sujet du lobbying. C'est un sujet intéressant. C'est un sujet complexe. C'est une réalité aujourd'hui du monde dans lequel on vit. Il y a des syndicats professionnels dans tous les domaines, le domaine du pétrole, le domaine du BTP, le domaine de l'élevage, dans tous les domaines. Et les élus, en l'occurrence les élus nationaux, disons les ministres et leur cabinet, sont soumis, et les parlementaires aussi, à un grand nombre de contacts et de pressions amicales de la part de ces lobbies. Ce sont des pressions contradictoires, parce que vous avez le lobby pétrolier et en face vous avez les lobbies environnementaux. Alors la complexité, c'est pas d'être manipulé ou de ne pas être manipulé, c'est de simplement réussir à faire la part des choses. Donc c'est complexe. Voilà, c'est le métier d'élu, c'est d'arriver à avoir l'expertise aussi qu'apportent des lobbies, à comprendre les problèmes qui sont ceux de telle ou telle catégorie professionnelle, et pour et en face les arguments dans les deux sens sur tous les sujets. Voilà, c'est une des complexités auxquelles sont confrontés les élus, et ça c'est aussi l'intérêt de ces
alors
activités.
Maintenant, je voudrais venir à suite du sujet d'une certaine manière, et qui est les conséquences. Je reviens cette fois aux élus. Il arrive, Dieu merci, pas dans nos contrées, mais il arrive que des élus soient condamnés, et qu'ils soient condamnés également à des peines d'inéligibilité. Je suis toujours un peu surpris que quelqu'un soit inéligible pendant seulement quelques années. Déjà, je trouve ça surprenant. Et
que les Balkany, par exemple, on peut être
mais
surpris.
Alors, c'est une très bonne question, parce que ça va être la mienne, justement. Par ailleurs, il y a des élus condamnés publiquement, appel fait, cassation faite, condamnés, ils ont fait leur peine, ils se représentent devant les électeurs, et les électeurs les élisent. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça, monsieur Maur, les démocrates et indépendants?
C'est vrai que ça peut laisser perplexe. Le suffrage universel n'est pas toujours peut-être aussi clairvoyant qu'il serait souhaitable.
Néanmoins, est-ce qu'il n'est pas souverain?
Néanmoins, il est souverain, et quelquefois, dans le Cahuzac, il y a tous les ingrédients. C'était quelqu'un qui dissimulait, et qui dissimulait depuis longtemps, et qui dissimulait sur des fonds publics, parce que vraisemblablement, la partie qu'il a portée en Suisse était d'origine d'accord entre les laboratoires au moment où il était conseiller, et son rôle était peut-être de faire passer au-dessus de la pile tel ou tel médicament pour avoir un remboursement plus rapide. Et d'un autre côté, c'était quelqu'un d'extrêmement compétent. Il était président et reconnu comme compétent par les parlementaires.
Ma question c'était sur l'inéligibilité.
Donc c'est inévitablement quelqu'un de compétent, on va avoir tendance à le réélire. C'est presque inhérent à sa façon de se présenter.
C'est partie du cercle.
Monsieur Calmette.
Oui, moi je crois à des sanctions dissuasives et exemplaires, parce que comme vous le dites, une inéligibilité définitive, pour moi, ça me semblerait justifié, parce que
je vois la gravité.
Moi, je pense pas. Pour moi, on doit d'entrée, on a fait une bêtise, on a triché, et ben on ne doit plus se représenter devant le peuple, parce que comme vous avez vraiment dit, le peuple des fois manque de sagesse, il est capable de le redire.
Mais ça, donc pour moi, c'est un
blanc-seing à la bassesse, un blanc-seing à la tricherie. Pour moi, ça devrait être d'office l'inéligibilité totale.
Monsieur Andréotti, alors le peuple peut se tromper ?
Et malheureusement, qui peut le nier, puisque les pires dictateurs ont été élus.
Est-ce que ça n'avait pas son droit de se tromper ? Est-ce que ça n'avait pas son droit de se tromper ?
Tout dépend de l'information dont il dispose. Il vote de bonne foi et...
Ah, quand une condamnation a été publique, voilà.
Alors,
connue...
Contre, moi, si vous parlez de condamnation, en ce moment, il y a le problème de l'amnistie des syndicalistes. Il y a des syndicalistes qui ont simplement jeté des œufs sur des policiers. Renversé une
table. C'est normal.
Non. Écoutez, vous n'allez pas me traiter d'agitateur. Moi, j'ai plutôt été matraqué que je n'ai matraqué, monsieur Tranier, je puis vous l'assurer. Je connais les postes de police.
Bon.
Et je n'ai jamais porté la main sur quelqu'un.
Très bien, mais je vous félicite.
Mais par contre, j'ai reçu des coups de
vous
la
étiez,
police.
Vous étiez parti sur les zones
Oui. Et non, mais je tiens à le dire, parce que si monsieur Tranier veut jouer avec les mots, je vais lui retourner que c'était une police de droite. Et par conséquent, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Moi, je les ai sentis, les coups de matraque.
Vous ne vous connaissez pas, essayons de ne pas être caricatural.
Ne me cherchez pas sur ce sujet.
Non, terminez votre propos.
Et puis, il y a plein de gens, de salariés, qui savent ce que c'est que les coups de matraque.
Bon, on était à l'inéligibilité et à l'amnistie.
Voilà. Alors, simplement,
on parle de l'État fasciste tout à l'heure.
Je suis d'accord, dans la mesure où même si ça ne paraît pas sérieux, quand on a trompé ses concitoyens et ses administrés, je suis d'accord. Que l'on puisse être inéligible, oui. Bien sûr, ça ne me choque pas du tout.
Eh bien, moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Et c'est vrai que les citoyens de Levallois-Perret ont réélu M. Balkany après ses condamnations, parce que...
Tout le monde pense à lui, mais il y en a d'autres.
On peut penser à M. Mélic, du Parti Socialiste, à Béthune, qui a été réélu aussi. Enfin, M. Balkany, c'est vrai que tout le monde dit que c'est un excellent maire pour Levallois-Perret, qu'il a transformé la ville, et il a été réélu. Eh bien,
peut-être... Quand on achète les votes, comme Dassault...
Peut-être que... Oui, mais écoutez, au moins il y a des élections, ce qui n'est pas le cas dans tous les régimes. Mais bon, l'intérêt, je crois, d'interdire à quelqu'un qui a été condamné, un élu qui a été condamné pénalement, une éligibilité définitive, c'est de faire des exemples, oui. Et puis, ma foi, est-ce qu'à Levallois-Perret, il n'y aurait pas quelqu'un d'autre aussi capable d'assumer les destinées de la ville, compétent, sans qu'on ait besoin de c'est vrai que ça discrédite peut-être l'ensemble aussi des élus. Quand un élu qui a fauté revient aux responsabilités, même après une élection.
C'est-à-dire que finalement, les juges qui jugent au nom du peuple seraient aptes à dire au peuple « Vous ne pouvez pas réélire ce personnage ».
Voilà. Les juges, oui, et puis le législateur qui fait la loi et qui autorise les juges à le dire.
C'est quand même le législateur qui a le dernier mot, hein.
Bien, ben là, je constate un consensus.
Disons que le juge la faute elle-même, mais et la loi peut dire on ne peut pas se représenter. Et ça me semblerait justifié, moi. Ouais.
Alors, comme le rappelait M. Tranier, à l'origine de tout ça, il y a le regard, les yeux dans les yeux, d'un personnage dont le mandat n'était pas très éloigné d'ici, d'ailleurs. Hein, ce qu'a trouvé... le président de la République, qui a trouvé le gouvernement comme antidote, c'est donc la déclaration de patrimoine public, d'abord des ministres, puis des élus et d'un certain nombre de fonctionnaires. Pour l'instant, on a vu paraître celle des ministres. Alors d'ailleurs, je voudrais déjà vous entendre sur, aussi bien pour les ministres, pour les élus, pour tout le monde, est-ce que c'est bien... est-ce qu'il vaut mieux avoir l'air opulent ou il vaut mieux avoir l'air pauvre pour ses électeurs? Il faut une attestation de modestie ou une attestation de compétence? Parce que je suis allé voir les déclarations des ministres, hein, et quand je vois que quelqu'un qui est haut fonctionnaire depuis 35 ans, qui est célibataire sans enfant, a réussi à économiser en comptant aussi son logement 254 000 euros, Je me demande si c'est bien raisonnable qu'il soit ministre de l'économie et des finances, monsieur Moscovici. C'est vraiment inquiétant. Enfin, il oublie de nous parler de la retraite que lui constitue la Cour des comptes, d'ailleurs. Mais si en ayant un salaire de haut fonctionnaire pendant 35 ans, il a réussi à mettre de côté 254 000 euros, moi, je trouve inquiétant, mais mon avis, c'est rare que je le donne, mais de lui confier les... Et alors, on a un autre... Bon, je les ai pas tous regardés, hein, je vous ai fait quelques sondages, mais on a Madame Fourneyron. Fourneyron, je vous rappelle que Madame Valérie Fourneyron, elle est ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation, et de la Vie Associative et de l'Éducation Populaire. Et elle est médecin et son mari aussi. Et à eux deux, ils ont deux maisons qui valent en tout 1 700 000 euros. Mais ils doivent avoir une vie un peu perturbée parce que ils déclarent 2000 euros de patrimoine mobilier. C'est-à-dire qu'il est vraisemblable qu'ils ont la cuisinière dans l'une et le frigo dans l'autre. Le cas ennui, c'est que les deux maisons sont éloignées de 300 kilomètres. J'avais pressenti que cette histoire de déclaration de patrimoine serait une occasion supplémentaire de se moquer de nous. Je vous écoute, monsieur Calmette.
Oui, je pense que moi aussi j'ai remarqué que ça manquait beaucoup de crédibilité, ou du moins au moins d'explication. Je regarde notre ministre local à Véronèse qui déclare qu'elle n'a pas de logement, alors qu'elle est quand même, depuis 40 ans, elle a été haut fonctionnaire, elle a fini préfète. Depuis 10 ans qu'elle est à la retraite, donc une retraite quand même intéressante, j'imagine, haut fonctionnaire, elle est élue locale, conseiller général, sénatrice, maintenant ministre, donc pas de maison et seulement 400 000 euros de revenus mobiliers. Moi, je trouve quand même que c'est ou un peu se moquer du monde, ou alors il faut donner des explications. Est-ce qu'il y a eu des donations? Et c'est tout à fait crédible, bien sûr. Voilà, moi je trouve que c'est quand même se moquer un peu de monde, tout ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de députés...
En même temps, la vraie question, c'est est-ce que ça nous met à l'abri? Est-ce que ça sert à quelque chose?
Non, d'autant plus qu'ils peuvent faire le même coup que M. Cahuzac, quoi. Avoir de l'argent en Suisse caché et de pas le dire. On est toujours à la merci de quelqu'un qui manque. Mais je voulais rajouter que les députés, ils sont pas pressés de donner leur patrimoine et les conseillers financiers, ils doivent avoir du travail.
Mais cependant, ça ne va pas bien loin parce qu'ils sont pas obligés de dire quelle est l'origine de leur...
revenus, tout à fait.
De leur richesse éventuelle.
C'est indiqué hein, dans la déclaration des ministres. C'est assez bien fait.
N'est pas obligatoire.
C'est assez bien fait, c'est complet. Enfin, ça paraît complet, pas exhaustif.
Il y a beaucoup de néant.
Et l'origine,
Moi, je préfère dire que je vais donner des exemples parce que c'est finalement un peu agaçant de faire croire que quand on en aura fini avec ce tintamarre-là, il y a des mesures sérieuses. Hein, si on avait le temps, on les détaillerait. Il ne s'agit pas de dénigrer systématiquement. C'est que ces mesures que le gouvernement a prises, hein, il ne s'agit pas pour moi de dire ça ne vaut rien. Non, absolument pas. Il y a des mesures, comme je disais tout à l'heure, qui avaient été préparées dans des débats parlementaires déjà bien antérieurement à l'affaire Cahuzac. C'est pour ça que je dis, ça ne part pas de Cahuzac, et il serait bien naïf de penser que ces problèmes de corruption d'élus débutent avec Cahuzac, hein, soyons sérieux. Donc, c'est vrai que le problème se posait chez les parlementaires, et ils y avaient réfléchi avant. Bon, alors ceci, moi, ça me permet juste de dire que c'est le problème, c'est le lien entre l'argent et le politique. Je donnerai des exemples. L'avocate de l'épouse Cahuzac, son nouvel avocat, son nouvel avocat, c'est le fils de Simone Veil. Il est aussi avocat de DSK pour Sofitel. Le banquier de Cahuzac, il bosse
mais
avec
la Suisse. Mais vous ne pourrez pas reprocher à des avocats de faire leur travail.
Écoutez, je donne des informations.
On n'en a rien
je
à faire.
Je ne suis pas coupeur de tête. Je disais tout à l'heure que s'il y avait des coups, je les ai plus reçus que
vous mettez les gens à l'index.
Vous laisserez finir ma déclaration ou ma lecture. Que ça vous plaise ou pas. Le banquier de Cahuzac est ami personnel de Carla Bruni et conseiller financier de Sarkozy. Il l'a été.
Ouais.
L'homme d'affaires ouvrant le compte suisse de M. Cahuzac, c'est un homme du Front National proche de Marine Le Pen et un financier du Front National. Une super mafia, en effet. Et l'argent roi, ce n'est pas qu'un slogan. Il contamine bel et bien le cercle du pouvoir, et j'en terminerai là-dessus. C'est pourquoi les déclarations des élus et des parlementaires, ça me dérange pas, je demande pas mieux, je peux même vous dire combien j'ai de retraite après 40 ans de travail. Ça vous fera pas renverser votre chaise, croyez-moi. Alors, ceci étant, j'en ai terminé pour ceci, pour dire que le problème, c'est de couper les liens, mais d'une manière fondamentale, systématique, transparente, et pas par des mesures à toute vitesse, qui ne portent que sur les élus.
Alors, monsieur Tranier, est-ce que ça sert à quelque chose?
Je crois que ces pseudo-informations totalement dépourvues d'intérêt et de sens illustrent complètement l'espèce de tour de passe-passe dont on est encore victime en essayant
de... Je dirais même plus de vindicte.
Oui, de nous faire passer des déclarations approximatives, hâtives, contradictoires, pour une vérité.
Est-ce que le dispositif...
Le danger, là, où on y touche, c'est qu'une espèce de transparence absolue, on sait à quoi conduit la transparence, et conduit au totalitarisme. Voilà.
Donc, c'est un chemin,
le pacte Mercosy.
Donc, évitons la paranoïa des complots... internationaux.
Totalitarisme de l'argent, il existe. Hein.
Tout cela n'a que très peu de sens. Aujourd'hui, le problème, c'est retrouver un sens moral à l'action publique. Et où est le plus grand danger? Est-ce que c'est quelques dérives individuelles qui doivent être sévèrement sanctionnées quand on les découvre? Ou est-ce que c'est un élu, un président de la République, en l'occurrence, qui... tout au long d'une campagne électorale, prend une série d'engagements, fait des promesses, république irréprochable, mais dans tous les domaines. Et qui, une fois au pouvoir, ne fait rien de ce qu'il a dit, persiste dans un langage double où on peut lire tout et son contraire, et finalement trompe à la fois ceux qui ont voté pour lui et ceux qui ont voté contre lui, et pour des résultats qui sont désastreux. Je crois que le problème, il est là. Essayons d'avoir les meilleurs dirigeants possibles. Et cessons de...
Les plus efficaces. Voilà, les plus efficaces, c'est pas forcément les plus pauvres. Hein.
Voilà, cessons de nous perdre dans des considérations absolument secondaires.
L'efficacité, tout dépend au service de quoi et de qui.
On peut le considérer efficace, d'une certaine façon. Un des problèmes de ce gouvernement, c'est par exemple qu'il n'y a que des fonctionnaires. Mais ça c'est bien plus grave que le fait que M. Fabius soit multimilliardaire, millionnaire, tout le monde le sait, que d'autres soient riches ou d'autres pauvres. C'est pas le problème. Le problème, c'est que sociologiquement, ils sont tous identiques. C'est des hauts fonctionnaires qui ne connaissent rien à l'économie française, à la vie des entreprises, et qui, depuis un an, découragent les gens d'entreprendre, d'investir, et pour finir, ruinent notre pays.
Voilà. Je crois que c'est le grand problème, Monsieur Tranier, parce que quand vous regardez la période antérieure, c'est pas venu depuis un an, la crise économique, la sortie de crise, le chômage.
Il y a un an, je vous rappelle, monsieur Andréotti, essayons de ne pas avoir une mémoire courte, si je sais que la mémoire, parfois, c'est quelque chose qui vous dérange, mais il y a un an, nous étions en sortie de crise. Voilà. Aujourd'hui, rappelez-vous.
Il fallait faire sonner les cloches parce que les gens, ça n'était pas aperçu.
Mais pourtant, c'est le cas. Si on compare la situation actuelle,
on a regardé la moyenne des revenus, des salaires, des retraites. Qui ne s'est baissé,
c'est les salaires qu'il faut regarder. C'est les chômeurs.
La richesse d'un pays, c'est celle des gens qui vivent bien, qui ont un travail. Et pas ceux des cours de la bourse, monsieur Moret. Et les cours, et les indices qu'on utilise pour dire que le pays, ou que la crise, c'est une fable. Les pays d'Europe s'enfoncent, il y a 115 millions de pauvres, il y a 35 millions de chômeurs, France, il y en a 5 millions, parce qu'on ne compte pas si vous avez 3 heures d'intérim, vous êtes plus chômeur, si vous faites un mois de stage, vous êtes plus chômeur.
Il y a un an,
la croissance économique était de retour, on avait une trajectoire
positive. C'est le baratin des experts qui sortent tous du même moule. Ils ne regardent pas l'économie réelle. L'économie réelle contredit ce que vous dites.
Pas du tout. L'économie réelle, c'est 1000 chômeurs aujourd'hui de plus chaque jour. C'est ça l'économie réelle d'aujourd'hui.
Mais c'est vrai que pour arriver à ce résultat, vous avez endetté de 500 milliards de plus.
Bien sûr,
c'est la faute à l'Allemagne, c'est la faute à Sarkozy. Écoutez, on connaît le discours rodé. Il faut quand même regarder la réalité en face du gouvernement qui n'est pas à la hauteur, qui est incompétent, qui est idéologiquement vicié et qui est incapable de nous sortir d'une situation difficile.
Il fait même des zigzags. Les 3 premiers mois de son gouvernement, il a opté pour augmenter les fonctionnaires, pour augmenter les impôts et ne pas toucher à la TVA. Et au bout de 9 mois, il revient complètement en arrière. Ça veut bien dire qu'il ne se sent pas tranquille dans ce qu'il a fait. Il a fait
pendant 3 mois le contraire de ce qu'il voudrait faire maintenant. C'est quand même.
Vous, vous devriez être content parce qu'il fait un peu votre politique. Oui, mais c'est ce que vous auriez aimé faire.
Il l'a fait avec un temps de retard et, à moitié, et n'importe
comment. Si vous regardez les sondages, ce sont les gens de gauche qui ne sont pas contents de M. Hollande.
Les gens de droite,
ils sont tout à fait contents.
Les gens de droite ne sont pas non plus contents de M. Hollande.
Oui, parce qu'ils préfèrent avoir M. Sarkozy. Ils en veulent toujours plus.
D'ailleurs, je regrette aujourd'hui l'absence autour de cette table du Parti Socialiste. On l'a pas souligné, mais c'est quand même le grand absent de ce débat. Il y aurait quand même beaucoup de questions. Hein.
Bon, non, je pas que CFM invite tous les représentants locaux invite, de bon, tous les partis.
Je veux pas insister, mais c'est quand même regrettable nationaux. De payer personne pour représenter ce que fait les errements du gouvernement. Et c'est dommage que quand justement il y a des errements, et personne ne soit là pour en répondre.
Non, simplement, je voulais rappeler qu'il faut pas confondre la politique politicienne et les paroles et les actes, parce que effectivement, la droite n'a aucun intérêt à apparaître, soutenir cette politique. Par contre, je voudrais rappeler...
C'est une catastrophe, là, je ne veux pas soutenir une catastrophe.
Apparemment, je n'ai pas tellement possibilité de développer, ni même les autres, d'ailleurs. Il faut qu'on se laisse parler les uns les autres et que la parole tourne.
Merci, monsieur, le temps nous est compté. Être conscient de la nature de l'émission.
Bien sûr. Et si on pouvait simplement me laisser finir cette phrase, je rappellerai que quand il s'agit de choix fondamentaux, et qui sont de l'ordre de la moralité et des élus, et du rôle des élus. Par exemple, lorsqu'il s'agit de voter le pacte Merkel-Sarkozy, devenu Merkel-Sarkozy-Hollande, qui enlève au Parlement le pouvoir de voter un budget s'il ne convient pas à des instances non élues de Bruxelles, de la Banque Centrale Européenne, là, vous les votez avec les sociales. Quand il s'agit des textes fondamentaux, on n'en fait pas de bruit de ça. C'est pas comme le mariage pour tous qui concerne 3000 personnes, mais nous, les élus communistes, on fait la différence entre ces textes-là et le pacte pour l'emploi, soi-disant, et le mariage pour tous qui sert à répandre un nuage de fumée pendant ce temps, on ne parle pas du reste.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous complètement.
Et je terminerai pour dire que si les rôles des élus, les élus n'ont pas la parole, le parti facile, et quel qu'il soit, en ce moment, où on se demande si on n'est pas en train de retrouver de l'antiparlementarisme, où l'extrême droite joue là-dessus, contre tous
alors,
les
justement,
élus
c'est
l'extrême droite et l'extrême gauche.
Pour conserver un petit peu le sujet, et au fond, c'est là-dessus qu'on en terminera, la question, je vous ai demandé si ça servait à quelque chose, je n'ai pas eu vraiment de réponse. L'exposition du patrimoine des élus. Mais est-ce que, à l'inverse, est-ce que ça ne peut pas être nocif pour la démocratie, Monsieur Calmette?
Moi, je pense pas. Au contraire, moi, je suis pour que tous les élus donnent leur patrimoine et sérieusement et clairement et l'expliquent même. Monsieur Maure a parlé des pays du Nord, de la Norvège, du Danemark et tout ça, où le moindre centime dépensé par les élus doit être justifié. Leur patrimoine.
Je disais que c'était excessif.
Moi, je trouve pas ça excessif. Moi, on doit des comptes aux citoyens. On doit savoir combien était notre patrimoine avant qu'on soit élu et combien il est à la sortie. Moi, ça ne me gêne absolument pas et ça ne devrait gêner aucune personne qui souhaite prendre une responsabilité pour aider au bien public.
Ah, monsieur Maure, est-ce que ça peut nuire à la démocratie ou
alors,
pas
je crois que faire une déclaration, avoir des contrôles, c'est excellent. Et pour veiller à ce que l'enrichissement ne soit pas aux dépens de la République. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas possibilité d'avoir de l'enrichissement, je dis que cet enrichissement soit correct et conforme à l'éthique de la républicaine. Inversement, en ce qui concerne la publication de ce que gagnent les élus, de ce que le patrimoine des élus, je pense que ça, c'est malsain et qu'au total, ça va encourager les médiocres à se présenter parce qu'on sait très bien...
Parce qu'on n'est pas riche, on est médiocre.
Pas forcément, mais quand on est riche, on est pas forcément médiocre.
Et alors, en fait, faut pas avoir peur de montrer son patrimoine.
En fait, on stigmatise les personnes qui sont riches et qui ont réussi, et on préfère avoir des gens qui font mine d'avoir des patrimoines minorés, parce que il y a des fois des patrimoines, on se demande. Hein, quand on voit les publications de patrimoine, on se demande si la réévaluation a été faite honnêtement. Alors, donc, contre la publication, pour le contrôle, et pour un contrôle correct, il n'est pas nécessaire d'afficher, pour attiser la jalousie, le patrimoine de tout un chacun.
Monsieur Tranier, est-ce que ça peut être nuisible alors, cette publication?
Oui, je suis tout à fait en ligne avec ce que disait le docteur Mort. Oui, contrôlons les patrimoines sur la base de déclarations, mais avec des vrais moyens d'investigation au moment de l'élection et au moment du départ de la fonction. Je vois pas l'intérêt de les publier. On le voit, ça donne c'est assez grotesque et ça donne un voyeurisme et ça ouvre la porte à des dérives dont on a eu un aperçu qui me semble inquiétante, où on met les gens en cause sur leur vie privée alors que c'est pas le problème. Le danger, c'est que ne se présentent aux élections que en effet des personnes qui ou que ça décourage certains de se présenter à des élections alors qu'ils ont bien plus de capacité à assumer des fonctions publiques et qu'à l'arrivée, on est ce qu'on a aujourd'hui, finalement, c'est-à-dire un gouvernement avec des clones qui sont tous hauts fonctionnaires et qui ont vécu toute leur vie éloignés de la réalité du monde tel qu'il va. Ils savent pas ce que c'est qu'une entreprise, qu'un commerce, qu'un métier. Et les résultats en termes politiques et d'actions menées sont désastreux, voilà, comme on le voit. Et alors, on condamne, on insulte les chefs d'entreprise. Un an plus tard, on s'aperçoit que peut-être on a tort. Donc, on essaie d'aller dans une autre direction. On fait des effets d'annonce. Tout ça, c'est pas sérieux. Rendez-vous compte, un an, ce que ça représente à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un mandat. Bon, aujourd'hui, on a besoin d'un personnel politique diversifié. Et je crois que la publicité des patrimoines, ça va décourager des vocations dont on aurait besoin.
Eh bien donc, vous l'avez compris, le sujet de Table Ovale sans ellipse ce soir, c'était les déclarations et les publications de déclarations de patrimoine. Et pour en débattre, il y avait autour de la table, il y a encore d'ailleurs autour de la table, Angelo Andreotti pour le Parti communiste français, Jean-Louis Calmette pour Europe Écologie et Verts, Bernard Mort pour l'Union des démocrates et indépendants, Laurent Tranier pour pour un mouvement populaire. Et tout ça était à peu près régulé par Claude Deveuzin, qui vous dit à dans un mois, ce sera à Rodez.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.